VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. La Gambie, de nouveau admise au sein du Commonwealth ce jeudi. La demande officielle faite par le président gambien Adama Barrow le mois dernier pour que la Gambie rejoigne le Commonwealth a reçu le soutien unanime des membres de l'organisation. Cette décision porte de nouveau à 53 le nombre d'États membres du Commonwealth. La Gambie sera invitée à assister au sommet de l'organisation qui se tiendra à Londres en avril. L'ancien président gambien, Yahya Jammeh, avait décidé en octobre 2013 de retirer son pays du Commonwealth. Il avait qualifié l'organisation d'extension du colonialisme à la consternation générale. Au Mali, l'un des lieutenants du chef djihadiste Iyad Agali succombe à ses blessures. Sidaham Agtahama, qui avait été grièvement blessé fin janvier 2018 lors d'une attaque contre Menaka dans le nord-est du pays, a commandé plusieurs opérations contre l'armée malienne et les casques bleus de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali. Plus de précisions avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
L'attaque terroriste contre le camp de la garde à Menaka avait fait 5 morts du côté de l'armée malienne. Mais les assaillants avaient enregistré une seule victime. Ils se sont repliés parce qu'ils avaient beaucoup de blessés, parmi lesquels leur chef qui avait conduit l'attaque. C'est quelques jours après que certains groupes armés ont commencé à dire que le chef des opérations d'Iyad a été touché à Menaka. Il s'agit de Sahadam Agtahama, l'un des chefs de guerre de Iyad Agali, qui a conduit l'attaque perpétrée contre le camp de la garde à Menaka le 28 janvier dernier. Il est mort par suite des blessures échiées à cette occasion. La mort de ce lieutenant de Iyad porte un coup sérieux à cette organisation terroriste à laquelle s'était rallié le mouvement islamique du Grand Sahara et certains combattants de la CMA évoluant dans les secteurs de Menaka et Ansongo. Sidaham avait aussi conduit l'attaque contre les femmes à Gourmararous en avril 2017 ainsi que celle perpétrée contre la patrouille conjointe FAMA MINUSMA. Il avait été aussi vu lors de certaines attaques dans le cercle de Nara et aux alentours de la forêt de Ouagadou, jusqu'à la frontière Mali-Mauritanie. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Bénin, la Cour constitutionnelle est réduite à 6 sages depuis le 26 janvier, date à laquelle le conseiller Simplice Dato, magistrat de haut niveau de l'institution, a déposé sa démission sur la table du président du groupe. Cette démission est intervenue, fait-on remarquer, au lendemain de la décision de la Cour déclarant contraire à la Constitution le retrait du droit de grève aux travailleurs de certains secteurs de l'administration publique. La fin du mandat des conseillers de la plus haute juridiction du pays étant prévue dans 5 mois, le départ de Simplice Dato est perçu comme une manœuvre du gouvernement du président Patrice Talon pour fragiliser et contrôler l'institution. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Anandé.
En 28 ans de vie constitutionnelle, c'est bien la première fois qu'un sage de la Cour constitutionnelle démissionne en pleine situation de crise. Les Béninois ont été surpris par ce départ inattendu, surtout au moment où il est attendu de cette institution des décisions pour décrisper la situation sociale du pays. À la Cour, c'est un silence total autour de cette démission. Le secrétaire général de l'institution s'est prêté à nos questions. Pour lui, les raisons de cette démission sont connues du président de la Cour et du démissionnaire.
Je saurais vous dire à la date d'aujourd'hui les raisons qui motivent cette démission. Le constituant et le législateur organique ont tout prévu et la Cour fonctionne tout à fait normalement.
Pour certains hommes de droit, si la loi fondamentale permettait à tout ça de déposer quand ils le désirent son tablier, la période n'était pas favorable à un départ.
C'est vrai que du point de vue du droit, c'est prévu, mais dans un tel contexte où les médias attaquaient la Cour constitutionnelle, un membre de cette institution. Je pense que même si on a envie de démissionner, on devrait attendre pour ne serait-ce que se sacrifier pour la nation.
Mais pour d'autres comme Bastien Salami, cette décision est le signe d'un malaise profond existant au sein de l'institution.
La Cour s'est trompée volontairement dans un but précis. Je suis à l'aise pour dire aujourd'hui qu'en réalité, il y a un malaise profond au niveau de cette Cour, de sorte que le conseiller qui a démissionné n'est certainement pas le seul.
Le conseiller démissionnaire a été nommé par le président de la République, donc il n'a pas au chef de l'État actuel de nommer son remplaçant et c'est ce qui attise la méfiance de la classe politique et de la société civile. Plusieurs associations ont appelé le chef de l'État à ne pas fragiliser les institutions de la République. Le clergé s'y est même mêlé à travers une conférence de presse à appeler les hommes politiques à cesser d'utiliser l'agent à des fins peu recommandables.
Que tous les fils et filles du Bénin fassent reculer le pouvoir de l'argent sur la vie politique nationale. Cette pratique mène à l'impasse et érige à petits coups un système d'approvisionnement matériel, moral et spirituel de notre société.
En l'absence d'une version officielle des raisons de cette démission, les rumeurs vont bon train. Le ministre de la Justice, Joseph Diogbenou, explique que le gouvernement Talon est conscient de ce que les décisions de la Cour sont inattaquables.
Nous sommes des êtres humains de liberté. Le libre arbitre est intrinsèque à l'être, est consubstantiel à l'être. Et c'est ce qui fait les grandes nations. Je pense que ce n'est pas une question de littérature ni de mathématiques. C'est une question d'hommes et de femmes qui, à un moment donné, se prononcent et apprécient. Et il s'agira de transformer les difficultés en opportunités et de faire avancer notre pays.
Conformément au règlement intérieur de la Cour, son remplaçant devrait être nommé au cours du mois de la démission, c'est-à-dire en janvier dernier. Au grand étonnement de l'opinion, le gouvernement qui doit procéder à cette nomination n'en parle pas. Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burundi, l'inscription des électeurs pour le référendum constitutionnel prévu en mai 2018 et contesté par l'opposition a débuté ce jeudi et durera jusqu'au 17 février. C'est ce qu'annonce la Commission électorale nationale indépendante. Rappelons que le gouvernement a adopté fin octobre un projet de révision de la Constitution soumis à référendum qui permettrait au président Pierre Nkurunziza au pouvoir depuis 2005 de briguer à partir de 2020 deux mandats de 7 ans. Au Tchad, 10 partis d'opposition qui avaient soutenu un appel à manifester mardi ont été suspendus pour 2 mois pour trouble à l'ordre public et incitation à la violence. Les précisions de Dili Diko.
Les activités de 10 partis politiques d'opposition sont suspendues pour une durée de 2 mois, a déclaré le ministre de la Sécurité, Ahmad Mahamat Bachir. Il avait prévenu mardi que les partis qui tenteraient de défier l'autorité de l'État seraient suspendus. Parmi les partis suspendus figure le Parti démocratique du peuple tchadien, mené par le député Djimet Clément Bagao, leader de la marche avortée de mardi. Il avait affirmé que des manifestants ont été visés par les tirs de la police pendant la marche, mais les forces de l'ordre ont démenti. Une autre marche pacifique est prévue aujourd'hui, jeudi, mais les autorités ont annoncé son interdiction. En réponse, les syndicats ont appelé les établissements de santé publique à suspendre le service minimum, alors que la grève générale des fonctionnaires est entrée dans sa 2e semaine. Les syndicats contestent les coupes sur le salaire des travailleurs du secteur public et un nouvel impôt sur le revenu. Cette grogne sociale a pris des allures de fronde contre le régime du président Idriss Déby Itno.
Actualité aux États-Unis, les élus républicains et démocrates du Sénat ont annoncé avoir conclu mercredi un accord budgétaire qui prévoit le relèvement du plafond des dépenses fédérales et du budget de la défense d'environ 300 milliards de dollars au cours des 2 prochaines années. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Si ce compromis se concrétisait, le président Donald Trump obtiendrait la hausse voulue du budget militaire, mais les républicains ont concédé en échange aux démocrates une augmentation comparable du reste du budget, acceptant de faire sauter les verrous d'austérité qui contraignaient les dépenses fédérales depuis 2011. Les parlementaires ont au passage remis à plus tard la question épineuse de la régularisation des centaines de milliers de clandestins appelés dreamers, provoquant une grogne chez certains démocrates. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, et son homologue démocrate Chuck Schumer ont annoncé mercredi cet accord portant sur les montants des budgets 2018 et 2019. Il mettrait fin au rythme de financement de court terme qui était devenu la norme et empêchait le gouvernement de planifier à long terme ses dépenses et investissements. Le président Trump a annoncé son soutien entier, bien que le compromis n'inclut rien pour ériger le mur promis à la frontière mexicaine, une des principales promesses de campagne. L'accord devrait être adopté par un vote des sénateurs, puis par la Chambre des représentants, où il n'est pas assuré que les conservateurs d'un côté et une partie des démocrates partisans d'une réforme migratoire de l'autre l'approuvent.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. www.voaxsingtonradio.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.